7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des féminicides dans le monde. Chaque jour, ce sont des épouses assassinées, des crimes d'honneur contre des jeunes filles, comme au Pakistan, ou des avortements sélectifs en Inde ou en Chine contre des fœtus de sexe féminin, sans parler des violences de rue ciblées contre les femmes, comme au Mexique. Rien qu'en France, une femme est tuée tous les deux jours. Mourir parce qu'on est une femme, c'est encore trop souvent un crime banalisé que l'on appelle féminicide, un mot récent, d'ailleurs systématiquement souligné de rouge par le correcteur orthographique de traitement de texte. Rouge, une couleur bien à propos pour ce mot encore inconnu. Mais les chiffres, eux, existent, peut-être sous-estimés. Comment savoir ? 87 000 féminicides sont commis chaque année dans le monde. Alors comment en finir avec ces pratiques qui concernent tous les continents ? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Virginie Ballet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien Libération. C'est un journal français qui est totalement engagé sur ce sujet. Vous êtes chargée de recenser chaque mois les meurtres conjugaux. Car oui, les femmes ne sont pas des chiens écrasés. Geneviève Garrigos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole et ancienne présidente d'Amnesty International. Vous travaillez beaucoup sur l'Amérique latine avec ce chiffre qui semble incompréhensible vu de loin pour le Mexique. 4000 féminicides chaque année. Beaucoup plus que ce que représente le Mexique dans la population mondiale. Nous serons aussi en ligne avec Clémence Julien, qui est spécialiste de la santé de la reproduction en Inde. Elle est anthropologue à l'université de Zurich en Suisse. Frédéric Ojardias, notre correspondant en Corée du Sud, nous dira comment la Corée du Sud revient de loin concernant les avortements sélectifs. Preuve que l'on peut éradiquer ce phénomène par la volonté politique. Et quant à vous, les voisins et les voisines surtout, vous avez la parole. Quelle est la situation dans votre pays? Comment mieux comptabiliser et dénoncer ces meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes? Comment mieux protéger les femmes? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp sur lequel vous pouvez nous laisser des messages écrits. Et puis bien sûr sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ali Matou à Conakry nous dit « L'impunité seule peut expliquer ce déni d'humanité à la femme. » On en discute. Je vous rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Geneviève Garrigos, qu'est-ce que ça signifie exactement ce mot féminicide?
Bien, dans un premier temps, dans les années 70, est apparu le terme de fémicide, qui était par rapport à homicide faisant référence à l'homme, et c'était une féminisation dans laquelle ont été impliqués notamment Simone de Beauvoir à l'époque.
Et c'est le mot anglais en fait.
C'est homme-icide, femme-icide. C'était pour différencier justement les meurtres des uns et des autres. Et cette différenciation est apparue parce que, derrière ce que l'on veut véhiculer, c'est que la personne, elle est tuée parce que c'est une femme, et c'est vraiment dans ce contexte-là. Et derrière, c'est le contrôle de la personne, de son corps, de sa sexualité, que l'on veut atteindre. Et on la punit en la tuant parce que justement, elle cherche à s'émanciper. Mmh. Et cette relation entre visibilisation des femmes, émancipation des femmes et les meurtres qui deviennent de plus en plus barbares, comme on peut le voir d'ailleurs en Amérique latine, on voit qu'il y a un lien qui est juste derrière.
L'OMS propose une définition très simple, hein, tout meurtre de fille ou de femme au simple motif qu'elles sont des femmes. Ça veut dire que une attaque d'une banque avec des femmes parmi les victimes, ça n'est pas un féminicide.
Non, c'est d'ailleurs, on demande, nous, des enquêtes différenciées pour bien signaler si c'est lié, si c'est un féminicide ou pas. Parce que derrière, si ce sont des femmes qui attaquent une banque, on va effectivement, et il y a la réponse est suffisamment violente pour arriver jusqu'à les tuer, bien à la limite, on ne sait même pas que ce sont des femmes. Par contre, si c'est une femme qui se refuse, si c'est une femme qui quitte son mari, si c'est une femme qui est trop visible, comme les femmes politiques, comme les femmes journalistes, à ce moment-là, c'est parce qu'elles sont une femme. Et en Amérique latine, on a introduit un deuxième concept par rapport au féminicide initial, c'est celui de féminicide. Et là, autant parfois c'est utilisé de façon non différenciée, hein, l'un ou l'autre, mais ça peut aussi traduire une dimension politique. C'est-à-dire que non seulement la femme est tuée parce qu'elle est une femme, mais il y a une responsabilité de l'État, soit parce qu'il le tolère, soit parce que lui-même est à l'origine de ces violences, hein, et on pourra en reparler, et qu'il ne fait rien pour les protéger, pour que la justice soit adaptée. Donc vous voyez, il y a une gradation en plus, le refus politique. Et là, peut-être on pourra en reparler ce qui s'est passé hier à l'ONU avec le viol en temps de guerre, et on voit bien justement jusqu'où peut aller la dimension politique et ce refus.
À l'ONU, où justement les États-Unis ont amputé un texte qui doit permettre d'intensifier la protection des femmes victimes de violences sexuelles lors des conflits. Est-ce que vous comprenez la position des États-Unis ?
Elle s'inscrit de toute façon dans la politique de Donald Trump depuis qu'il occupe la Maison Blanche. Souvenez-vous, le premier décret qu'il avait pris, Obama, ça avait été sur la fermeture de Guantanamo. Trump, ça a été sur justement le soutien aux associations qui financent des actions sur les droits sexuels et reproductifs, que ce soit l'avortement et la contraception. Et là, ce qui gênait Donald Trump, c'est le fait que les femmes puissent avoir recours à des soins, que ce soit par exemple l'avortement. Et là, c'est extrêmement grave parce qu'on s'attaque au cœur même, justement, du viol comme arme de guerre.
C'est ça, d'autant que le texte de l'ONU, c'est sur les femmes victimes de violences en temps de conflit.
Hein. Voilà, et le viol, ce qu'on oublie souvent, c'est que le viol comme arme de guerre, c'est pas uniquement contrôler le corps de la femme, mais c'est contrôler les sociétés que l'on va occuper, que l'on attaque, à travers le corps des femmes, en justement faisant que ces femmes soient exclues de leur communauté parce qu'elles ont été souillées par un autre, soit qu'elles soient enceintes de l'ennemi. Et donc, on voit bien comment on vise la destruction. Et empêcher qu'elles puissent avorter, c'est une triple, quadruple peine pour ces femmes.
Alors, tout ça, effectivement, forme un tout. Mais revenons au meurtre de femmes. Virginie Ballet, le terme de féminicide ne figure pas dans le code pénal français.
Alors non, c'est pas le cas. C'est vrai que depuis 4 ou 5 ans, on a des associations, des collectif féministe qui milite pour essayer de faire reconnaître ce terme-là. C'est vrai que nous, on est plutôt dans l'optique de l'utiliser, pas forcément de militer pour qu'il soit dans le code pénal, qui prévoit déjà des circonstances aggravantes en cas de meurtre de conjoint. Mais je pense que d'un point de vue sociétal, c'est en effet important de faire reconnaître de ce dont on parle finalement, d'utiliser les bons mots. Il ne s'agit pas d'un drame passionnel ou d'un drame de la séparation. Il s'agit bel et bien de féminicide, de femmes tuées par leur conjoint parce qu'elles étaient des femmes. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur la question du contrôle, on est évidemment là-dedans. Nous, on a commencé à comptabiliser et à raconter les histoires de ces femmes en janvier 2017 pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes à l'œuvre. Et on s'est aperçu que dans près de la moitié des cas, ce genre de meurtre survenait au moment de la séparation. Ce qui est bien la preuve d'un mécanisme de contrôle, de possession, et qui, que l'homme refuse en fait au moment de la séparation.
Le travail de libération, l'engagement de libération, c'est de compter. Sur le site internet, c'est des vies derrière les chiffres. Chaque année, près de 100 femmes sont tuées par leur conjoint, leur mari ou leur ex. Derrière une statistique qui se répète froidement chaque année, écrit Libération, vous, il y a des prénoms, des histoires, des vies, des victimes collatérales. Cette litanie funéraire égrène, mois après mois, les meurtres conjugaux depuis le 1er janvier 2017. Pourquoi il faut compter ?
Alors, je dirais même plus, ça va au-delà de simplement compter, c'est aussi incarner. Compter, c'est aussi rappeler cette statistique qui est terrible et qui semble immuable, d'une femme tuée tous les 2 ou 3 jours par son conjoint. Mais ça va au-delà de ça, c'est aussi raconter les histoires de ces femmes comme un hommage et essayer de faire comprendre que ça peut toucher n'importe quelle femme dans n'importe quel milieu social et dans n'importe quelle zone géographique. Donc pour nous, c'est très important d'arriver à essayer de raconter ces histoires, comprendre les mécanismes à l'œuvre pour peut-être essayer de trouver des moyens de mieux lutter en amont contre ces phénomènes-là qui finalement relèvent d'une violence de genre et d'un sexisme profondément ancré. Donc c'est aussi un moyen de lutter à notre manière contre un meurtre de masse, en fait.
Pour nous, en tant que citoyens et citoyennes, ça relève, enfin jusqu'à ce qu'on nous ouvre les yeux, ça relève d'un fait divers, finalement.
Voilà, mais nous, notre idée, c'est de montrer que c'est pas uniquement un fait divers, ça doit pas être cantonné à quelque chose de presque insolite, parce que c'est souvent le cas. C'est Marcel tué à coups de casserole pour une soupe trop chaude. Et nous, on a envie de montrer que c'est pas un simple fait divers isolé, ni un phénomène qui relèverait de l'intime ou de problématiques de couple ou de drames de la séparation, mais c'est vraiment quelque chose qui est sociétal. Ça va beaucoup plus loin.
Comment vous travaillez, comment vous recensez ?
Alors, moi, j'ai une alerte Google. Google, c'est la base, enfin plusieurs alertes Google en réalité, c'est vraiment la base, le point de départ qui tous les jours m'alerte dans ma boîte mail sur ce qui peut se passer un peu partout en France. Donc c'est selon plusieurs thèmes, mais ça c'est aussi assez terrible, plusieurs termes utilisés, donc j'utilise le drame familial, le drame passionnel, femme plus homicide, féminicide, femme tuée, et ça en fait on s'aperçoit tous les jours en consultant cet onglet de boîte mail de la réalité des choses, et c'est aussi quelque chose de très frappant. Et à partir de là, ça me sert de base pour aller fouiller dans leurs histoires, comprendre quelle était leur profession, est-ce qu'elles étaient mariées, est-ce qu'elles étaient en cours de séparation, est-ce qu'elles avaient des enfants aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, et parfois même les enfants sont présents au moment du meurtre, ils assistent à cette scène-là, et c'est aussi un moyen d'essayer de comprendre comment ils peuvent se reconstruire après ça, qu'est-ce qu'on fait pour eux, comment est-ce qu'on peut prendre en charge.
Un homme qui tue une femme qu'il a probablement aimée, souvent une ex, en tout cas souvent une femme qui veut partir, qui veut le quitter, ce sont des meurtriers qui viennent de tous milieux sociaux ?
De tous milieux sociaux. Qu'il a probablement aimé, ça c'est intéressant, parce que c'est qu'il a aimé à sa manière, qu'il a possédé aussi beaucoup. Et posséder, c'est pas aimer. Donc c'est, oui, ça peut arriver à n'importe quel homme. Enfin, on a des retraités, on a des gens qui sont sans emploi, des consultants, ça survient vraiment absolument partout. Et dans toutes les zones de France, il n'y a vraiment pas de prévalence dans un milieu social en particulier. Mmh. C'est aussi un moyen de recueillir des données d'analyse pour nous, pour essayer de mieux lutter.
Et quelles sont les histoires qui vous ont le plus marqué sur ces deux dernières années ?
Là, je pense à une histoire que j'ai relue récemment en travaillant sur le travail d'une jeune photographe qui s'appelle Camille Garbi, qui a réalisé une série appelée Preuve d'amour, et elle a choisi de mettre en scène les objets du quotidien qui ont servi à tuer des femmes, et il y avait ce robinet neuf non monté, et ça, je comprenais juste même pas dans quel cadre un robinet pouvait devenir une arme du crime. Cette histoire-là, c'était l'histoire d'un couple qui aménageait son pavillon. Ils étaient tous les deux trentenaires, consultants, ensemble depuis très longtemps. Ils s'étaient rencontrés à l'école. Et voilà, enfin, c'est un samedi matin, elle faisait des œufs brouillés, une dispute a éclaté et il l'a tuée avec ce qui lui est passé sous la main, à savoir un objet qu'ils envisageaient d'utiliser pour leurs travaux. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal, parce qu'on s'aperçoit que n'importe quoi peut devenir une arme à partir du moment où...
Un cutter, hein, puisque un elle, cutter. Ça a été ce qui a
ça
déclenché.
A
elle, était
journaliste,
elle était architecte et elle s'est dit, mais comment un cutter qui sert dans mon métier à couper du carton, ça peut devenir une arme pour tuer une femme parce qu'elle est une femme?
Et le cutter, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en analysant un peu les données qu'on a pu recueillir depuis janvier 2017, on s'est aperçu quand même dans la majorité des cas, dans 40% des cas, c'est une arme blanche qui sert à tuer les femmes. Mais c'est aussi, je pense, symptomatiquement quelque chose de fort que de faire jaillir du sang, que de la tuer de cette manière-là. C'est vraiment le refus de l'émancipation de cette femme qui souvent veut se défaire de ces mécanismes toxiques, de cette fusion, de cette possession, et juste retrouver sa liberté.
Vous parlez d'armes improvisées, finalement, comme si le crime n'était pas prémédité. Alors, selon les affaires, évidemment, ça change, mais en tout cas, il y a cette colère incontrôlable chez les hommes lorsqu'ils veulent tout d'un coup supprimer leur conjointe ou leur ex-conjointe. Il y a des alertes, il y a des femmes victimes qui ont porté plainte, ont tenté d'alerter avant d'être assassinées.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on est souvent confronté à une difficulté, à un problème de moyens aussi. Bon, porter plainte, c'est une chose, mais ensuite, il faut sans doute, une fois qu'on a trouvé ce courage-là, arriver à trouver celui d'éventuellement s'éloigner du domicile conjugal. Et là, on appelle le 115, on est dans la même problématique que n'importe quelle personne sans domicile fixe qui peut ne pas trouver un hébergement d'urgence et un moyen de s'échapper de ça. Donc les premières alertes ne suffisent pas forcément.
Un cas récent là qui a suscité beaucoup d'émotions, le cas de Julie Douib qui avait porté plainte, qui a été assassinée en mars dernier par son conjoint.
En Corse, oui. Mais c'est un cas qui se reproduit très régulièrement de femmes qui avaient déjà déposé des mains courantes, qui avaient déjà porté plainte. Et on part du principe très souvent, du côté des forces de l'ordre, que c'est peut-être que forcément l'homme n'est pas forcément dangereux au point d'en arriver à menacer la vie de sa conjointe, aussi parce qu'on considère que c'est une problématique de couple qui les regarde, c'est un couple qui avait des problèmes, et ça on l'entend encore très souvent à propos de féminicides. On considère qu'ils avaient des difficultés Et c'était pas forcément un danger de mort. Or, bien sûr que si, il peut s'agir d'un danger de mort pour ces femmes-là.
C'est assez incroyable parce qu'à vous entendre toutes les deux, Virginie Ballet et Geneviève Garrigaud, on découvre que le féminicide, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne, justement, qui est assez éloigné des conflits, dans le fond. Mourir parce qu'on est une femme, comment en finir avec les féminicides dans le monde? On va parler du Mexique, on va parler de l'Inde, mais le phénomène, on l'a dit, touche tous les pays avec plus ou moins d'intensité. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler, les voisines et les voisins, si vous vous sentez concerné par ce sujet dans votre pays. Aziz Samaoui chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons des féminicides dans le monde. Tout meurtre de fille ou de femme au simple motif qu'elles sont des femmes, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Geneviève Garrigaud, vous êtes porte-parole et ancienne présidente d'Amnesty International. Vous travaillez beaucoup sur l'Amérique latine en particulier, avec ce chiffre, c'est vrai, étonnant vu de loin, le Mexique, le cas du Mexique, 4000 féminicides chaque année. Plus de 4% des féminicides du monde ont lieu au Mexique, alors que ça représente que 1,3% de la population mondiale. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cas à part, le Mexique?
Pour bien comprendre ce que représentent ces chiffres, ça veut dire que toutes les 2 heures au Mexique, une femme est assassinée parce que c'est une femme.
Toutes les deux heures au Mexique, on a dit tous les deux jours en France, une femme est assassinée.
C'est le pays où les féminicides, c'est le premier pays en termes de féminicides causés par des personnes extérieures, hein, étrangères à la femme, le deuxième au niveau des personnes qui sont dans son environnement proche, de sa famille et autres. Donc vous voyez, bien sûr on parle des zones en dehors des zones de guerre, mais ça reste quelque chose d'extrêmement important. C'est un fléau, on avait commencé à en parler au moment notamment des femmes disparues, hein, les filles de Ciudad Juárez, où il y a eu une grande mobilisation internationale au début des années 2000.
C'est cette ville frontalière des États-Unis, aujourd'hui surnommée la capitale des filles disparues. On a eu près de 1500 femmes et filles qui ont été tuées en une dizaine d'années.
Et ce qui avait fait scandale d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait aucune enquête. Et on avait les corps qui étaient retrouvés pour certains autres non. Hein. Tout était parti à partir d'un champ de coton. On avait trouvé plusieurs cadavres qui étaient enterrés. Donc, il y a eu beaucoup d'enquêtes, on en a beaucoup parlé. La mobilisation internationale a permis justement qu'on s'attaque, qu'on regarde en tout cas avec le gouvernement mexicain, comment ça se pencher sur ce sujet.
C'était des jeunes femmes qui travaillaient dans des usines. Il y a eu beaucoup de corps mutilés d'ailleurs, en même temps que les meurtres. Mais qu'est-ce qui se passait en fait?
En fait, c'était des jeunes femmes qui travaillaient pour une grande partie d'entre elles dans ce qu'on appelle les maquilladoras, c'est-à-dire ces usines qui sont en zone franche à la frontière, et donc qui souvent travaillaient sur les sont sur un rythme jour-nuit. Mmh. Et celles qui quittaient la nuit, les transports n'étaient pas sécurisés, elles étaient facilement, je dirais, enlevables et elles disparaissaient. Donc il y a eu un certain nombre de choses, d'ailleurs de mesures qui ont été prises par certaines entreprises pour que les bus les déposent chez elles la nuit, etc. Les parkings soient éclairés et tout. Mais on voit bien, il y a un problème qui est majeur et qui reste... voilà, c'est la question des enquêtes très rapides, et c'est la question derrière de l'impunité. Et au Mexique, on voit depuis, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été adoptées, de mesures qui ont été mises en place, à chaque fois, même y compris de la protection, mais on voit que le système ne fonctionne pas. Et ce qui était un phénomène qui était plutôt circonscrit justement à Ciudad Juárez, ensuite à l'état de Chihuahua, dont fait partie cette ville, on voit qu'aujourd'hui, plusieurs états sont en situation d'alerte au regard du nombre de féminicides. Et ce que l'on va constater, il y a différents aspects. Il y a la première chose...
À Ciudad Juárez, du fait de la mobilisation, ça s'est largement calmé.
On ne peut pas dire que ce soit calmé. Les enquêtes n'ont pas beaucoup progressé. D'accord. C'est tout le problème aussi du système judiciaire mexicain. On a eu beaucoup de rebondissements avec des personnes qui ont été arrêtées, mais on s'est aperçu qu'on avait obtenu des aveux de leur part parce qu'elles avaient été torturées, donc pour faire croire que justement les enquêtes avançaient. On a changé X fois de procureur, de système, etc. Globalement, aujourd'hui, les associations continuent à se mobiliser. Ils continuent à avoir des crimes, mais comme partout au Mexique, la différence n'est plus aussi importante qu'elle l'a été à une époque du fait de la situation géographique et de l'insécurité qu'il y avait dans cette partie du pays. Par contre, parallèlement, il s'est développé un autre phénomène, c'est depuis 2006, donc à l'époque, le président Calderón a mis en place ce qu'on a appelé la guerre contre le narcotrafic, oui, avec une militarisation du pays, une augmentation de la violence extrêmement importante. Donc, même si les femmes ne sont pas en première ligne, je dirais qu'elles subissent l'augmentation de la violence qu'il y a dans tout le pays. Pour bien comprendre, le Mexique, c'est un pays où il y a à peu près 30 000 homicides par an. Hein. Ça peut baisser, augmenter. Mais depuis 2006, il y a plus de 40 000 personnes qui sont disparues, dont une proportion qui n'est pas négligeable de femmes. Et dans ce contexte, alors que justement, on demande des enquêtes différenciées dans le cadre des meurtres pour femmes, très souvent, comme il se fait pour les disparitions, eh bien, on va avoir justement une criminalisation des victimes. C'est-à-dire que soit elles étaient dans des gangs, soit elles l'avaient cherché, soit...
Et donc, dans ces cas-là, on disqualifie le terme de féminicide. C'est-à-dire qu'elle était dans le trafic de drogue, donc elle n'a pas été tuée parce qu'elle était une femme.
Mais non seulement c'est disqualifié, mais en plus, il ne va pas y avoir véritablement d'enquête. Il va y avoir les scènes de crime vont être complètement, souillées, hein, c'est-à-dire, voilà, les personnes ne vont pas être entendues. Et c'est à un point aujourd'hui, d'ailleurs, que nous, au Mexique, avec Amnesty au Mexique, on travaille énormément sur ces questions. Il y a des cas que l'on suit depuis des années, hein, que ce soit justement des cas de... Il y a le cas de Carla qui a été, elle, assassinée sur son lieu de travail, mais on a dit que c'est un accident, alors que visiblement, il y avait eu abus sexuel, elle avait été brisée.
Ces cas de meurtre de femmes sur un continent qui n'est pas le continent le plus pauvre de la planète, qui n'est pas le continent le moins développé de la planète, a fortiori pour le Mexique, est-ce que c'est une violence à l'égard des femmes qui est finalement relativement récente dans l'histoire de ces pays, dans l'histoire contemporaine de ces pays ?
Non, c'est pas une violence qui est récente. Il faut bien comprendre que déjà, on est sur un continent où il y a eu la colonisation avec les autochtones. Ensuite, il y a eu l'esclavage. Et dans ces contextes-là, les femmes ont toujours été, je dirais, à la disposition d'une certaine partie de la population. Et on le voit bien quand vous regardez le génocide qu'il y a eu au Guatemala. Quand vous regardez, justement, les périodes de dictature militaire, vous voyez bien comment les femmes, justement, ont été des victimes. Il n'y avait pas que les hommes, les femmes ont été des victimes et elles ont subi des violences sexuelles et autres.
Alors, à la différence d'autres pays et d'autres continents, il y a une très forte mobilisation de la société civile, des associations. Il y a eu des campagnes comme Ni Una Menos, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas oui, pas une de moins, hein, qui est une campagne qui était née, qui n'est pas née au Mexique, me semble-t-il.
Non, Ni Una Menos, c'est née... C'est parti plutôt de l'Argentine et c'est remonté, ça a pris sur tout le continent. continent. Mais la lutte des femmes en Amérique latine, hein, je parlais des violences qu'ont subi les femmes qui sont... Ça fait des siècles, mais leur lutte aussi. Il ne faut pas oublier que les maires de la place de Mai ont été les premières, je dirais, résistances à la dictature. Et les petites filles de ces maires, aujourd'hui, ce sont celles qui sont dans Ni Una Menos. Et le mouvement des maires d'Argentine est parti dans tout le continent.
Donc là, un continent où les femmes sont très visibles.
Les femmes sont très visibles. Il faut voir que le niveau de scolarisation, la place de la femme dans la société, etc., elle est très, très importante.
Alors pourquoi autant de féminicides sur un continent comme ça ?
Justement parce qu'elles sont trop visibles. C'est presque ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que quand on revient à la définition du féminicide, on est dans le contrôle de la femme. Plus l'homme perd de son pouvoir, plus il va vouloir contrôler de sa femme. Vous savez, quand vous regardez...
Mais c'est assez inquiétant ce que vous nous dites, que plus les femmes se mobilisent, plus elles sont visibles dans la société, plus elles deviennent des cibles. Mais par ce qu'elles sont, finalement.
Mais vous savez, pour les femmes en Amérique latine aujourd'hui, elles le prennent quelque part presque comme le prix de cette indépendance et cette autonomie. Si vous regardez les personnes emblématiques qui ont été assassinées ces dernières années en Amérique latine, vous avez qui ? Berta Cáceres, Honduras, la lutte contre, justement, pour la terre, etc. Vous avez Marielle Franco, au Brésil, qui était une femme aussi excessivement visible. Et ce sont elles qui sont tuées, mais aussi parce que ce sont des femmes qui portent la parole très très haut. Et ça, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Donc, c'est pas la femme qui... Les femmes qui se font assassiner ne sont pas que des victimes, ce sont souvent aussi des femmes qui payent leur indépendance et leur autonomie, d'où la nécessité aussi de les protéger, je dirais presque plus, parce que sinon on n'avancera jamais.
Oui, qui paye une volonté d'émancipation finalement, et c'est un petit peu ce à quoi on assiste aussi avec les féminicides conjugaux en France. Finalement, on retrouve plus ou moins les mêmes ressorts, même s'ils ne sont pas dans des proportions similaires, mais cette volonté, oui, de contrôle et de refuser une indépendance, une autonomie des femmes, est souvent à l'œuvre derrière les féminicides. Ouais. Ouais.
Vous nous appelez les voisines et les voisins, vous avez la parole, on parle de ces meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. C'est sur RFI.
Nous partons pour l'Inde, même si Clémence Julien, vous n'êtes pas physiquement en Inde, mais vous êtes anthropologue à l'université de Zurich, spécialiste de la santé de la reproduction en Inde. Bonjour à vous.
Bonjour.
Clémence Julien, selon un rapport du gouvernemental en Inde de 2018, il y aurait 63 millions de femmes manquantes en Inde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la réalité des avortements sélectifs en Inde aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Comme vous le mentionnez, en effet, c'est un rapport qui a fait beaucoup parler de lui là, cette dernière année. Alors, l'histoire de l'avortement, elle se chiffre, il faut bien voir, qui traduit deux phénomènes. L'avortement sélectif et aussi la négligence des petites filles. Et ce sont deux phénomènes qui sont assez différents et qui sont liés à différents acteurs. Donc pour ce qui est de l'avortement sélectif, il est très difficile de savoir qui exactement ça concerne parce qu'il y a de multiples facteurs. Mais on a tendance à penser que ce sont principalement des familles sikhs, hindous et jaines, et non pas des chrétiens et des musulmans, en tout cas moins. Ça se passe principalement au sein de la classe urbaine éduquée, c'est-à-dire ceux qui ont davantage accès d'un point de vue économique mais aussi géographique aux cliniques privées et donc à l'avortement sélectif, tandis que la négligence des petites filles, c'est-à-dire le fait de être plus négligent en ce qui concerne l'allaitement, la nourriture, les soins médicaux, les vêtements qu'on leur donne, va être plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
Ouais. Depuis près de 10 ans, en Inde, le médecin a interdiction de révéler le sexe du fœtus. Il ne peut pas dire « Madame, vous attendez une fille, en principe, quand il pratique l'échographie, puisque c'est ça qui déclenche le « non, on ne va pas la garder ». Comment ça se passe dans la réalité ? Est-ce que cette loi est contournée aujourd'hui ?
Oui, malheureusement, comme vous dites, donc cette loi, elle a été votée en 94, mise en place en 96, donc ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a une loi qui interdit de détecter, de révéler le sexe du fœtus. Les statistiques montrent que le sexe ratio infantile, c'est-à-dire le sexe ratio des enfants entre 0 et 6 ans, continue d'empirer. Et on le sait, il y a eu beaucoup d'émissions assez sensationnalistes avec des caméras cachées qui montre que dans le privé, contre un bakchich, les médecins acceptent de révéler le sexe de l'enfant et ensuite d'avorter l'enfant s'il s'agit d'une femme.
Donc avec la complicité des autorités médicales. La conséquence aussi de ces avortements sélectifs, c'est que l'épouse va essayer absolument de tenter de faire un garçon, donc elle va être plus souvent enceinte, non, j'imagine ?
Oui, en effet, il y a une pression assez grande qui est exercée sur les femmes. Les femmes vont être amenées, dans certains cas, à avoir plus d'enfants qu'elles ne le souhaitent. Et c'est quelque chose que j'ai vu moi-même lorsque je travaillais à l'hôpital au Rajasthan, dans les salles d'accouchement. Et comme vous le dites, quand bien même il y a de nombreuses normes qui stipulent qu'il faut éviter les grossesses répétées, il faut éviter les grossesses trop rapprochées, dans la mesure où certaines femmes ont déjà une, deux filles, mais qu'elles doivent absolument avoir un garçon, certaines ne vont pas suivre les normes des médecins.
Vous le disiez, la loi existe depuis une vingtaine d'années, elle n'est pas appliquée, donc ça veut dire qu'il y a de très rares condamnations en justice de médecins, de parents ?
Théoriquement, donc la loi dont que je mentionnais précédemment, de 94-96, prévoit des mois d'emprisonnement et des amendes, à la fois aux médecins qui accepteraient de révéler le sexe du fœtus, mais aussi aux parents qui le demandent. Mmh. Et dans les faits, plusieurs articles montrent qu'il y a, c'est dérisoire, il y a une dizaine de cas qui ont été traduits en justice.
Ouais. La conséquence aujourd'hui pour les hommes ?
Alors, elle est importante, hein, ça relève du mathématique. On considère qu'il y a environ 25 millions de surplus d'hommes qui posent un souci énorme au moment du mariage, donc des hommes qui ne sont parfois pas en mesure de se marier, mmh. et surtout des hommes qui ne vont pas être en mesure de trouver une épouse conforme au niveau local et qui vont donc, c'est ce qu'on dit, on importe, le terme n'est pas très joli, mmh. mais qui vont amener des femmes d'autres états plus pauvres de l'Inde, mmh. voire d'états frontaliers. Et ces femmes sont généralement d'une caste plus basse, d'une famille plus défavorisée. Et elles ont surtout, lorsqu'elles arrivent dans l'état généralement au nord-ouest de l'Inde, un statut inférieur et mmh. plus vulnérable du point de vue de la famille mmh. comme de la communauté.
Mais elles arrivent quand même avec une dot.
Non, justement. Et c'est là, vous avez raison de le souligner. L'une des raisons pour lesquelles des femmes sont moins respectées, c'est que ce sont en général des mariages qui sont faits sans grande cérémonie et surtout sans dot. Or, la dot et le mariage contribuent au prestige du couple, de la famille. Mais non seulement ils sont faits sans dot, mais en plus, généralement, c'est à l'homme de verser une petite somme aux intermédiaires qui s'occupent de mettre en contact ces femmes et ces hommes.
Vous disiez, Clémence Julien, alors pour ce qui est du défaut de soins aux petites filles, parce que la mère, le père est tellement déçu d'avoir une fille qu'on va pas bien s'occuper du bébé et que donc la mortalité sera beaucoup plus importante. Ça se passe plutôt dans les milieux pauvres, mais pour l'avortement sélectif, plutôt dans une classe moyenne urbaine. Comment c'est encore si ancré dans les mentalités que c'est mieux d'avoir un garçon alors que, par exemple, en Chine, ça y est, les familles commencent à se rendre compte que les filles font des études, prennent mieux soin de leurs parents, notamment. Enfin, il y a des arguments qui vont davantage peser ou rééquilibrer, en tout cas, en faveur des filles. Ça ne semble pas bouger, ces mentalités, en Inde ?
Non, et c'est intéressant ce que vous soulignez, parce que toutes les études pensaient qu'avec le développement et l'alphabétisation des femmes en Inde, les choses allaient changer. Or, on voit plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est plus le développement et l'alphabétisation des femmes avancent, plus le phénomène se renforce.
Mais alors pourquoi ? Pourquoi, dans le fond, pourquoi ces couples veulent absolument avoir des garçons ?
Je dirais qu'il y a quatre raisons principales et qui sont difficiles justement à enrayer parce qu'elles sont liées à différentes dimensions. Il y a une dimension économique que vous aviez mentionnée précédemment,
celle de la dot.
Ouais. C'est un sacrifice économique qui est immense. Et la dot reste prégnante dans la société indienne.
Payée par la femme, hein, il faut bien le préciser pour nos auditeurs qui sont en Afrique.
De la femme qui doit constituer la dot lors du mariage. Ouais. Vous avez un élément qui est religieux. C'est généralement au fils aîné d'effectuer les rites funéraires pour son père. Et vous avez ensuite deux éléments importants qui sont liés à l'organisation sociale. L'Inde est une société patrilinéaire, c'est-à-dire que le nom, les terres, les biens se transmettent d'homme en homme. Et surtout, c'est une société où, lors du mariage, la femme part habiter dans la maison de la famille de son époux. C'est-à-dire qu'elle va apporter, lorsque les parents sont malades ou sont vieillissants, c'est le fils et son épouse qui vont s'occuper d'eux. Ouais. Donc ne pas avoir de fils, c'est avoir personne pour s'occuper de soi, lorsqu'on est âgé.
Et en même temps, on voit bien quand même que ces avortements sélectifs et ce défaut de soins avec, pour les petites filles qui fait que l'Inde manque de 63 millions de femmes, tout le monde est perdant hein, dans le fond, puisqu'on a des hommes qui ne trouvent pas d'épouse. On entend souvent dire, c'est ma dernière question Clémence Julien, que les violences des hommes, notamment les viols qui ont été très très médiatisés ces dernières années, cette violence à l'égard des femmes, elle serait imputable à ces hommes qui sont célibataires forcés.
Oui, alors c'est une théorie qui a été développée par plusieurs chercheurs, notamment par Hudson, Dunbar et Oldenburg, qui montrent des formes de corrélation entre certaines régions d'Inde avec un déséquilibre marqué et des taux de crimes importants. Personnellement, je suis assez méfiante avec ces études. Je pense qu'il faut bien évidemment se regarder ça de plus près, mais les liens de cause à effet à l'heure actuelle semblent assez simplistes, et ça me semble plus être des pistes à considérer à l'avenir que des thèses véritablement confirmées.
Merci beaucoup Clémence Julien d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes anthropologue à l'université de Zurich, spécialiste de la santé de la reproduction en Inde. Virginie Ballet et Geneviève Garrigos, pour revenir à ce profil des meurtriers de femmes, est-ce que cette thèse sur des hommes qui, dans le fond, auraient ce trop-plein de haine pour différentes raisons pourrait expliquer ces gestes? Alors, que ce soit en Amérique latine, en France, Virginie Ballet, vous qui travaillez sur la France.
Oui, après pour ce qui est de la question des violences sexuelles, moi c'est une thèse qui a tendance à m'irriter, je dois dire, parce que ça accrédite le propos selon lequel l'homme aurait des pulsions, des besoins qui seraient irrépressibles.
Et la victimisation des meurtriers, finalement.
Tout à fait,
aussi.
On en revient à la question de c'est la misère sexuelle, et puis c'est une manière, oui, de justifier la violence, comme s'il y avait une explication de ce type. Or, c'est pas le cas, et les femmes aussi ont des besoins sexuels quand on parle de viol. Comme vous le faisiez à l'instant, ça pourrait très bien être... Il n'y a aucune raison de penser que l'homme souffrirait plus de sa misère sexuelle que la femme, et aucune raison de justifier ces violences de cette manière-là, à mon sens.
Oui, surtout qu'on voit bien que ce n'est pas une question de misère sexuelle. Ce n'est pas une question sexuelle, c'est comme le viol, c'est comme toutes les agressions qui sont faites aux femmes. Il faut, et ça je pense qu'il faut bien le comprendre, c'est une question de contrôle, de possession, de pouvoir. Et les hommes qui sont les plus fragiles face à ça, ce sont effectivement les hommes qui se sentent dépossédés de leur pouvoir. Et plus une société est machiste, plus elle va mettre un niveau très important, de virilité sur les épaules d'un homme, plus s'il ne l'assume pas, il risque d'être violent. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que le féminisme, c'est permettre aux femmes d'être ce qu'elles sont, mais aussi d'enlever cette pression aux hommes qui peut les conduire à des niveaux de violence très importants. Ouais.
Alors, on parlait des avortements sélectifs en Inde. Il y a un pays qui revient d'assez loin en matière d'avortements sélectifs, c'est la Corée du Sud. Jusque dans les années 90, la Corée du Sud était l'un des pires pays au monde en matière d'avortements sélectifs. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Séoul. Pourquoi en Corée du Sud, jusqu'à une période aussi récente finalement, une vingtaine d'années, on tuait des fœtus de sexe féminin ?
Eh bien, en fait, c'était une conséquence du confucianisme traditionnel qui continue d'imprégner la société coréenne et qui accorde une importance cruciale aux héritiers mâles. Le penseur chinois Confucius affirmait ainsi que, je le cite, « des trois manquements à la piété filiale, le pire c'est de ne pas avoir d'héritier mâle ». Cette préférence pour les filles s'est traduite par de nombreux avortements de fœtus filles et par un nombre anormalement élevé de naissances de garçons. Dans les années 90, naissaient ainsi 117 garçons pour seulement 100 filles. Cette pratique était si répandue que la loi coréenne interdit depuis aux gynécologues de révéler aux parents le sexe du fœtus lors des échographies. Alors même si en pratique, certains le font quand même de manière détournée. Par exemple, avant la naissance de mon fils, le gynécologue nous avait annoncé que nous devrions plutôt acheter de la layette bleue.
Oui, néanmoins, les parents ne pratiquent plus ces avortements sélectifs. Ils ont presque complètement cessé.
Oui, tout à fait. En une décennie, le ratio filles-garçons à la naissance en Corée du Sud, il est redevenu normal. En 2012, naissaient ainsi 105,7 petits coréens pour 100 petites coréennes, ce qui correspond à la moyenne mondiale. La Corée du Sud fait ainsi figure de modèle parce qu'elle est l'un des rares pays à avoir réussi à régler un problème qui continue, on l'a entendu tout à l'heure, de frapper de nombreux autres pays, notamment en Asie. Et aujourd'hui, de nombreux jeunes couples coréens affirment même préférer avoir des filles, parce que celles-ci sont censées être plus attentives que les fils et mieux s'occuper de leurs parents pendant leurs vieux jours.
Est-ce qu'il y a des éléments d'explication pour comprendre ces changements de mentalité des politiques publiques ?
Oui, en partie. Je pense qu'en fait, ce changement, il est indissociable de l'amélioration des droits des femmes en Corée du Sud. Il y a seulement deux générations, seuls les garçons étaient envoyés à l'université, alors qu'aujourd'hui, il y a davantage de femmes que d'hommes qui obtiennent un diplôme universitaire. Alors même si les différences de salaire hommes-femmes en Corée restent les pires des pays de l'OCDE, en quelques décennies, les discriminations contre les femmes ont beaucoup diminué, leur statut s'est énormément amélioré, et puis la loi, vous l'avez dit aussi, la loi a changé pour leur accorder les mêmes droits patrimoniaux que les hommes. Mais si les mentalités changent indéniablement, c'est de façon plutôt lente. Une amie m'a par exemple avoué qu'à la naissance de son premier fils, ses beaux-parents avaient été soulagés sans l'exprimer ouvertement. Cela semble donc être aussi une question de génération.
Ouais, mais on ne passe plus à l'acte et c'est quand même l'essentiel. Merci beaucoup Frédéric Ojardias d'avoir été en ligne avec nous, Geneviève Garrigos, Virginie Ballet. Est-ce qu'on peut en finir finalement, même si on va conserver des freins, des idées reçues, est-ce qu'on peut en finir avec cette violence parfois presque enracinée?
C'est bien sûr qu'il faudrait qu'on en finisse. Après, c'est une question aussi de volonté politique très forte. Et la première chose, c'est de lutter contre l'impunité. La deuxième, c'est de identifier réellement les causes. Je rappelle, nous demandons par exemple des enquêtes différenciées qui permettent justement de redéfinir bien les causes, derrière de lutter, d'apporter les protections et de lutter justement contre ces stéréotypes qui continuent à véhiculer le fait que c'est à l'homme d'avoir le pouvoir sur la femme. Et ça, c'est profondément enraciné. On le voit régulièrement. Et la question des droits sexuels et reproductifs, comment à chaque fois les gouvernements conservateurs, je lisais ce matin que Vox en Espagne veut revenir encore une fois sur la question de l'avortement en Espagne, sur la question du fait des violences de genre. On le voit bien même sur ces questions-là.
C'est corrélé à une violence qui peut s'exercer sur les femmes, cette violence institutionnelle dans l'idée de retirer le droit à l'avortement, comme c'est le cas en Amérique latine où vous travaillez beaucoup, où il n'y a pas de réelle liberté, de réel droit à l'avortement, c'est corrélé au féminicide pour vous ?
Il y a une corrélation, parce que le féminicide, c'est la violence ultime, mais il va se construire sur toutes les violences qui s'additionnent, c'est des couches qui s'additionnent les unes aux autres.
Dont la racine est finalement un sexisme profondément ancré, donc tout ça relève d'un seul et même mécanisme.
Alors, il y a un auditeur qui poste ce message suivant que je trouve intéressant. On parlait de la dot en Inde, qui est payée par la famille de l'épouse. Diderot nous poste ce message de Yaoundé. Il nous dit ici au Cameroun, il faudrait revoir certaines pratiques culturelles telles que la dot dans certaines zones de notre pays. Le coût de la dot est extrêmement élevé, que certains hommes, après avoir payé, puisque là c'est l'homme qui paye la dot, considèrent la femme du coup comme un bien et ils l'utilisent comme ils le veulent. Voilà. On est en ligne avec la présidente des femmes juristes du Tchad. Bonjour Thérèse Mekombé.
Bonjour.
Thérèse Mekombé, au Tchad, vous travaillez essentiellement en assistance juridique aux femmes qui sont maltraitées, notamment dans leur famille. Est-ce que vous avez une idée de la réalité des féminicides, des meurtres conjugaux, des meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes, ou vous ne comptabilisez pas ?
Merci. C'est vrai que nous travaillons sur les violences faites aux femmes, mais nous n'avons pas une statistique exacte de meurtres des femmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une année où une femme soit assassinée par son conjoint, pour quelles que soient les causes.
On citait le chiffre tout à l'heure, Virginie Ballet, journaliste française, nous citait le chiffre pour la France. Une femme tous les deux jours est assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint. Au Tchad, il y a des textes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a, le code pénal qui protège les femmes, est-ce qu'il y a des condamnations de violences faites aux femmes ?
Bien sûr qu'il y a des condamnations dès lors que c'est dénoncé. Il y a des condamnations, mais...
En justice
quelquefois... Oui, en justice, bien sûr. Mais les auteurs de ces violences, quelquefois, se retrouvent ils sont condamnés et puis vous les retrouvez dans la nature. Parce qu'il y a aussi l'impunité, il y a aussi des gens qui sont là, je ne sais pas s'ils sous loi ou bien est-ce qu'ils ont des protections quelque part, et ces gens-là ne font pas la prison. Et donc ça revient à la question de l'impunité.
C'est-à-dire qu'il y a une condamnation en justice de l'auteur des violences, mais elle n'est pas appliquée.
Oui.
Il n'y a pas d'incarcération.
Il y en a qui sont incarcérés, mais ils sont incarcérés pour combien de temps? Vous allez vous rendre compte que moins d'un mois plus tard, soit on vous dit que la personne s'est évadée de la prison, ou bien vous allez vous retrouver un jour dans la rue avec cet auteur de violence qui a été incarcéré. Vous ne savez pas par quel miracle il se retrouve dans la rue alors qu'il est bien condamné.
Comment vous pouvez agir, vous, en tant que présidente des femmes juristes?
Notre action à nous, c'est le plaidoyer, la sensibilisation pour faire en sorte que les textes puissent être appliqués. Et vraiment lutter contre l'impunité pour que les auteurs de violences puissent cesser et que les femmes ne soient pas violentées à tout bout de champ. Et donc, nos actions se situent à ce niveau-là, le plaidoyer auprès du gouvernement, pour que les textes qui sont pris dans un code pénal qui est là, qui punit les auteurs de violences. Mais maintenant, c'est l'application de ces textes aussi qui pose un peu problème. Et donc, nous souhaiterons vraiment que les textes qui sont pris soient appliqués dans leur rigueur, pour que les violences puissent cesser, parce que nous ne trouvons pas normal qu'une femme soit violentée pour quelque raison que ce soit.
Merci beaucoup Thérèse Mekombe, présidente des femmes juristes du Tchad. En France, est-ce que Virginie Ballet, il y a, on ne voit pas tellement de médiatisation, de procès, de meurtriers, de sa conjointe ou de son ex-conjointe, des peines qui sont écopées.
Alors oui, il y en a, mais j'aurais envie de rebondir sur ce que disait Madame du Tchad, parce qu'il y a quand même un point commun avec ce qu'elle évoquait, c'est la difficulté de dénoncer. En fait, c'est souvent là aussi où on est coincé. C'est très difficile pour les victimes d'arriver à lever la honte et de trouver le courage de dire, ben voilà, mon conjoint me bat, et ça commence par là, avant d'en arriver au meurtre. Après, évidemment, oui, si, il y en a des procès, mais c'est aussi le signe d'un, pas d'un désintérêt, mais d'un manque de prise en compte de l'ampleur de ce phénomène et de la gravité.
Est-ce qu'il faudrait inclure le terme féminicide dans le vocabulaire juridique pour pouvoir alourdir les peines?
Alors, dans le vocabulaire juridique,
elles sont déjà plus lourdes quand il s'agit d'un meurtre de conjoint, pas spécifiquement quand c'est une femme d'ailleurs. Si une femme tue son conjoint, elle aura aussi une circonstance aggravante.
Alors moi, au-delà de la question juridique, qui est peut-être pas mon cœur de métier, je dirais que même d'un point de vue médiatique, on a une réelle responsabilité à employer ce terme, à essayer de se défaire de tous ces mécanismes et de bannir complètement le drame passionnel, le drame de la séparation. Je pense que ça commence par là, pour instaurer dans la société et dans le vocabulaire commun l'idée de ce qu'est un féminicide. Et ensuite, pour le droit, commençons par appliquer ce qu'il est pour l'heure, et peut-être que plus tard on pourra le faire évoluer.
Il faudrait alourdir les peines comme elles peuvent être alourdies pour un meurtre antisémite, pour un meurtre homophobe.
Ah, de fait, elles le sont déjà, mais c'est la question d'intégrer cette notion de féminicide dans le droit n'est pas tant d'alourdir les peines. Il y a des circonstances déjà aggravantes qui existent, mais c'est la reconnaissance du phénomène pour permettre de qualifier le crime, et derrière donner obligation à l'État de prendre ses responsabilités et de prendre les mesures nécessaires aussi derrière pour prévenir et protéger les femmes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous savez, les choses qu'on nomme bien, on lutte mieux contre elles.
Mais d'ailleurs...
Et derrière, quand c'est dans la loi, c'est encore plus fort. Le correcteur sera peut-être plus en rouge.
Oui, mais d'ailleurs, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que ça relève d'une volonté politique. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi de la difficulté face au manque de budget. En France, le secrétariat aux droits des femmes, plus petit budget de l'État.
Voilà, et il faudra retenir quand même ce chiffre. Une femme tous les deux jours est assassinée en France. Une femme toutes les deux heures au Mexique. Merci à vous Virginie Ballet du quotidien Libération.
Merci.
À retrouver sur le site de Libération cette comptabilité macabre en France. Geneviève Garrigos d'Amnesty International.
Merci.
Demain, on parlera des enfants et des adultes hypersensibles. C'est pas une maladie, mais plutôt un trait de personnalité. Les cris et les mots durs sont pour eux un drame. Appelez-nous si vous êtes dans ce cas. On vous redonne le numéro demain.